Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour Liberté, Égalité, Fraternité. Nous allons parler d'un patrimoine méconnu, mais fascinant, le télégraphe Chappe. Ce système de communication très ingénieux, inventé à la fin du XVIIIe siècle. C'est un système qui a quand même marqué l'histoire de la transmission des messages bien avant le téléphone et Internet. Pour en parler aujourd'hui, je reçois Monsieur Buffinelli de Saint-Martin-du-Tertre. Vous êtes adjoint au maire et vous représentez une association également aujourd'hui. Puis nous avons l'artiste, comédienne, créatrice de parfums, Pauline Dumail. Elle crée également des spectacles olfactifs, celui des Coquille-colis qui se jouera le 11 octobre. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Pour commencer, Monsieur Buccinelli, pouvez-vous nous rappeler un peu ce qu'était exactement le télégraphe Chappe et en quoi il a joué un rôle majeur dans l'histoire des communications?
Oui, alors le télégraphe Chappe, on est à la fin, en plein milieu du 19e siècle. La révolution est proche. Et on n'a pas un réel moyen de communication. Donc le Chappe, qui était né le 25 décembre 1763, en tant que deuxième enfant de la famille bourgeoise, il est destiné à la religion. Donc on l'a envoyé à Rouen dans une église, dans une école catholique, et ensuite au séminaire de la Flèche. Mais Claude Chappe, lui, ça n'intéressait pas tellement la prêtrise, mais il s'est retrouvé donc coincé en internat à la Flèche. Et pour communiquer avec ses frères, il avait trouvé un jeu avec des règles. Voilà. En sortir du séminaire, il a pu avoir quelques dots. Sauf que le 4 août 1789, les privilèges, ils ont été abolis. Et à partir de là, il a dû retourner chez lui et il s'est destiné à faire des recherches pour pouvoir communiquer à distance. Voilà. C'est ainsi que, en fin de compte, la France, elle a pu se doter d'un premier moyen de communication. Unique au monde, qui a débuté avec énormément de difficultés, puisque Claude Chappe a rencontré plusieurs déboires en sachant qu'il avait mis ses installations sur les barrières de l'Étoile à Paris et en fin de compte, 2 jours après, elles avaient été brûlées. Ensuite, il est venu au Parc Saint-Fargeau à Ménilmontant. Là aussi, pareil, les Parisiens pensaient qu'ils communiquaient avec le roi Louis XVI qui était au temple. Et à partir de là, il a dû être, comment dire, aidé par la Convention, où son frère Ignace était député. Et on a accepté qu'il vienne expliquer son invention, donc le 22 mars 1792. Avec des mots bien particuliers, je viens offrir à l'Assemblée un moyen tel que le corps législatif peut adresser un message aux frontières et en recevoir la réponse dans la durée d'une même séance. Voilà. Au départ, Carnot, qui était le représentant du peuple, n'a pas donné suite immédiatement à cette invention. Ce n'est qu'à partir de 1793, le 1er avril 1793, qu'on a décidé de faire une expérience. Donc l'expérience, elle a eu lieu sur une trentaine de kilomètres, on dit à l'époque, mais c'était en réalité 26 kilomètres, entre Ménilmontant et Saint-Martin-du-Tertre. Et Saint-Martin-du-Tertre est considéré aujourd'hui comme la commune au monde d'avoir reçu le premier message de communication à distance. Par un moyen, disons, qui était, comment vous expliquez ça là, qui était direct, quoi. En fin de compte, on pouvait directement avoir des messages très rapidement et il y avait un relais à Écouen. Voilà. Le relais à Écouen qui ensuite a fait cette première ligne, qui était Ménilmontant, Écouen, Saint-Martin-du-Tertre.
C'est bien ce que je me disais. Le télégraphe Chappe occupe une grande place dans l'histoire et la mémoire de Saint-Martin-du-Tertre. En dehors des journées du patrimoine, est-ce qu'il y a des actions qui sont menées
Oui, alors
pour valoriser?
je ne vais pas non plus me mettre en avant parce que j'aime pas ça. Moi, je fais partie depuis 1989 de la Fédération nationale des amis de la recherche historique des postes et télécommunications.
Waouh.
Voilà, donc c'est un grand mot. Hein.
Oui.
Voilà, donc on est plusieurs personnes, mais là aussi, malheureusement, les personnes les plus érudits, malheureusement, ils nous ont quittés. Et ceux qui restent, ils ont passé les 90. Voilà. Et donc c'est une association qui fait revivre dans toute la France le télégraphe. Voilà. Et nous à Saint-Martin-du-Tertre, bon, en dehors de notre association qui est quand même axée sur le télégraphe, puisque à la Tour du Guet, on a un petit musée depuis 2012 pour lequel je fais des visites guidées régulièrement. On a la nuit des musées et on a... des visites qui peuvent faire l'objet de conférences. Bon, cette année, j'en ai eu qu'une, mais il y a des années, j'en ai deux ou trois, c'est suivant sur demande. La principale activité que nous, on a à Saint-Martin, c'est donc notre musée, voilà, pour lequel, si les gens veulent venir à la Tour du Guet, on est ouvert tous les dimanches matins, là maintenant en hiver, de 10h à midi, ou alors sur demande. Et la visite, il y a un film, et la visite dure à peu près une demi-heure, avec toutes les explications sous la télégraphie CHAP.
Est-ce que la population locale s'y intéresse ?
Oui. Et là, justement, en 2024, c'était le 230e anniversaire de la création de la première ligne de télégraphie entre Paris et Lille. Donc, ça faisait longtemps que j'avais entamé un travail depuis 89, 90, 90 jusqu'en 94 sur la construction de cette ligne. Bon, après, je ne vais pas raconter ma vie, mais j'ai eu quelques soucis de vue, de visuel, voilà. Et pendant des années, comme je ne pouvais plus du tout lire, j'ai laissé un peu tomber. La possibilité d'avoir avec l'intelligence artificielle, avec certaines méthodes, depuis 2015, j'ai pu retrouver un certain nombre d'activités déjà avec l'ordinateur. Et depuis, disons, 2 ans, 3 ans, il y a une machine qui s'appelle le Voxivision. Je vais faire un peu de pub parce que c'est quelque chose d'important, c'est français. Et comme le télégraphe CHAP, c'est français, donc j'aime bien tout ce qui est français. Ça me permet de pouvoir avoir une lecture de tous les documents, y compris calligraphiés. Ce qui m'a permis de pouvoir faire cet ouvrage, hein, le télégraphe de Paris-Lille en passant par Saint-Martin, avec donc surtout comme base la construction de cette ligne Paris-Lille. Voilà. Alors, le livre, c'est pour des gens qui pourraient être intéressés.
Vous avez ramené votre livre aujourd'hui, il est toujours en vente, on peut le retrouver où ?
À la Tour du Guet.
À la Tour du Guet, uniquement ?
Aujourd'hui, oui, moi je suis pas... c'est quelque chose que j'ai fait, j'ai eu le plaisir de le faire, et j'ai redonné la totalité des livres qui ont été... D'ailleurs, bon, c'est l'association qui l'a financé avec d'autres financeurs, et c'est ce qui permet un peu d'avoir quelques recettes pour l'association. Quand on est des petites associations comme nous, c'est très difficile de pouvoir obtenir des subventions importantes. Je prends uniquement l'exemple de la réfection totale des panneaux du musée. Il a fallu que j'attende, on me l'avait promis en 2017, il a fallu que j'attende 2023 pour obtenir les fonds. Parce que nous, on est une association, on fait partie aussi de l'Office Tourisme Communautaire Carnet de Pays de France, à côté de Communes Carnet de Pays de France. Voilà, on a plusieurs liens avec d'autres organismes, mais c'est pas pour autant qu'on vous amène des fonds.
La ville de Saint-Martin-du-Tertre a même une place intitulée Place des Frères Chappe.
Ouais, exactement.
Vous connaissez un peu, Pauline, Saint-Martin-du-Tertre, la Tour du Guet ?
Alors, je connais un petit peu Saint-Martin-du-Tertre puisque j'habite dans le coin. Mais non, je ne savais pas qu'il y avait tout cet historique autour du télégraphe à Saint-Martin-du-Tertre. Et je trouve ça passionnant et fascinant. Et je trouve que ça illustre deux choses particulièrement importantes. D'une part, l'excellence scientifique française dans les inventions, dans les innovations, et d'autre part la part importante et nécessaire pour qu'une innovation soit utilisée et diffusée au niveau du grand public, qui est la volonté politique et la dimension politique. Donc merci pour cet historique passionnant.
Est-ce que vous pensez, vous, Pauline, que le Télégraphe Chap pourrait vous inspirer à en faire une source d'inspiration artistique dans vos
spectacles ?
Pourquoi pas ?
C'est à réfléchir.
D'accord. Alors, poursuivons. Monsieur Bussilini, est-ce qu'il est accessible à des jeunes ?
Oui, bien sûr. Oui. Là, si vous voulez, c'est un livre simple. Moi, je ne suis pas écrivain. Mmh. Hein, donc, en fin de compte, quand je dis que j'ai écrit, non. C'est un recueil. C'est un recueil de documentation importante qui a été faite par des prédécesseurs qui ont s'occupé de la Télégraphie Chap. À l'intérieur du livre, il n'y a vraiment que dans les plus grandes recherches, uniquement ce qui a été considéré pour Saint-Martin-du-Tertre. Voilà. Il y a des anecdotes, il y a des choses intéressantes. Ça peut être, d'ailleurs, les personnes qui me l'ont acheté, ils ont trouvé que c'était un livre ludique. Je n'avais pas pensé à ça, puisque à l'intérieur, il y a une première partie qui va raconter l'histoire du télégraphe, comme tout le monde l'a raconté. Ça, c'est immuable. Hein. Voilà, la télégraphie a duré pendant 60 ans en France. C'était le premier moyen de communication. On avait même des télégraphes portables pour Napoléon, pour qu'il puisse faire la guerre en Crimée. Ça n'était utilisé, justement, comme le disait tout à l'heure, ça n'était utilisé que pour la politique et la guerre. Ça n'a jamais été utilisé pour les particuliers. Et aujourd'hui, à l'intérieur, vous avez tout un tas de petites histoires. Si vous me permettez de prendre quelques secondes, il y en a une qui est très marrante. C'est le clocher de l'église d'Hercuit. Voilà. Le télégraphe d'Hercuit, en 1794, était proche d'un moulin. Mmh. Et le télégraphe de Saint-Martin-de-Tertre était proche d'une ferme, la ferme de Fontenelle. Et en 1817, il y a eu... C'est écrit comme ça sur les délibérations, un ouragan qui a emporté le moulin et le télégraphe. Et donc, on a installé le télégraphe sur le clocher de l'église d'Hercuit. On a déplacé celui de Saint-Martin. Et en 1852, quand le télégraphe a définitivement rendu l'âme pour le télégraphe électrique, le maire de l'époque d'Hercuit a fait un procès à l'État pour qu'on vienne puisse lui remettre son clocher comme il était précédemment. Et donc il y a eu toute une procédure qui s'est terminée dans les années 1864, voilà, pour lequel la commune d'Hercuit a pu toucher une somme de 5000 francs argent, à l'époque c'était de l'argent, hein, pour pouvoir construire son clocher. Voilà. Donc sur la ligne Paris-Lille, c'était une ligne qui faisait 213 km. Il fallait voir quand même que le télégraphe avait quand même une incidence importante. Mais là, pour les gens qui veulent avoir un peu plus d'explications, il faut qu'ils viennent sur place parce que oralement, c'est difficile à expliquer.
À la Tour du Guet.
À la Tour du Guet, mmh. Bien sûr. Comment dire, donc, on avait à l'origine, au départ, pour la première ligne, on n'avait que 17 postes sur 213 km. Et on pouvait envoyer un message de 200 mots, à condition qu'il fasse beau, etc., et qu'il n'y ait pas trop de problèmes. On pouvait envoyer un message de 200 mots entre Paris et Lille en 2 heures, en sachant que la malle-poste, elle, mettait entre 2 et 3 jours. Donc, quand on dit que la télégraphie Chap, c'était une véritable révolution technologique, ça l'était. Voilà. Alors le système, c'est pas, parce que les gens, la première question qu'ils me posent, comment on mettait les lettres de bout à bout. Non, c'était, le télégraphe permet d'avoir des figures géométriques, hein, par rapport à son régulateur et à ses deux indicateurs. On a 196 figures géométriques qu'on peut faire. Claude Chap en avait choisi 92, et les 92, il les a codifiées. Ensuite, ces 92 figures géométriques codifiées, elles étaient répertoriées dans un vocabulaire qui comportait 92 pages et 92 lignes, et sur chaque ligne, il y avait un mot, une phrase, voire une composition de texte. Donc, pour que ça soit rapide, on faisait un premier signal qui donnait le numéro de la page, et le deuxième signal qui donnait le numéro de la ligne.
C'est très ça a l'air complexe, hein. Ça a l'air compliqué.
Ça a l'air complexe parce que là, j'aurais dû amener ma petite maquette pour au moins que vous compreniez. Il faut voir, là, nous à Saint-Martin-du-Tertre, on a une maquette. Mm-hmm. Voilà, moi, je reçois assez régulièrement des enfants des écoles, y compris de la dernière année de maternelle, non pas uniquement que de Saint-Martin. Et en réalité, bon, au départ, ils posent plein de questions, mais ensuite, en voyant le mécanisme de la machine, on arrive à saisir. C'est vrai que quand je fais mes conférences, j'ai un PPS, donc les gens visualisent le télégraphe. Voilà, mais on n'a pas la visualisation de comment est faite la machine, c'est vrai que oralement, c'est un peu difficile à comprendre.
Mmh. Quel genre de questions les enfants vous posent ?
Ils posent toutes les questions possibles et imaginables. Hein. Voilà. Par exemple, la dernière question, c'était un peu une anecdote, c'est parce qu'il y a un signal qui est un peu particulier et qui ressemblait, je ne sais pas à quel personnage qu'ils ont sur leur tablette. Ils croyaient que c'était le télégraphe qui l'avait mis dans la tablette. Nous, à la Tour du Guet, on a ce musée. On a aussi le Belvédère, qui est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Je vais essayer de vendre un peu ma tour, là, parce que là, on a eu les Journées du patrimoine. Alors, grâce à vous, je vous remercie, parce que j'ai eu quand même pas mal de monde qui sont venus, et je posais la question... y compris de Méru, de Persans, de voilà.
Ah oui.
On n'a pas eu de chance avec le temps, voilà, puisque malheureusement cette année, j'ai eu uniquement la moitié des personnes qui étaient venues l'année précédente, mais c'était beaucoup de gens qui venaient de l'extérieur, et quand ils arrivent en haut de la tour, et si un jour vous avez envie de venir, venez, ils sont surpris de la vue que l'on a.
On voit très loin, je crois.
On voit loin. C'est-à-dire, sans jumelles, sans longue vue, de la Tour du Guet, on voit Paris, la Tour Eiffel, la Tour Montparnasse, le Sacré-Cœur, voilà. Les Mercurelles de Bagnolet. On voit sur une trentaine, 35, 40 kilomètres. Après, avec des jumelles ou une longue vue, on arrive à voir jusqu'à Villers-Cotterêts.
Ah, quand même, ouais. C'est loin. C'est très loin.
Oui.
Villers-Cotterêts, ouais. C'est très loin.
Ouais. Fleury, sur Villers-Cotterêts, il y a une tour à Auban pour la TNT. Donc, c'est une tour qui est très haute. Elle fait 200 mètres de haut, 260 mètres, je crois même. Et donc, là, vous savez, les lumières pour les avions, rouges et blanches, là. Mm-hmm. Et donc, là, il y a 67 km en ligne droite de Saint-Martin-du-Tertre.
Ah. Ouais. Est-ce que vous pensez que ce patrimoine peut encore inspirer... à notre époque, à l'époque du numérique et des communications instantanées, ça peut encore inspirer
Oui, moi je pense que oui, parce que on est, bon, aujourd'hui, je vous dis, on est un groupe de personnes à la FNAR qui sommes un peu plus âgés, mais il y a des jeunes qui viennent. Dans la Maurienne, à côté de Modane, j'ai un ami qui s'appelle Monsieur Charpin, qui a réussi en 2012 à restituer une partie d'une ligne sur trois postes à côté d'Avrieux. Et il y a eu dans un épisode, je ne sais plus quel épisode, de quel feuilleton qu'il y avait, on a repris le télégraphe. Le télégraphe, il a plein d'histoires, il a l'histoire de Monte Cristo, il y a l'histoire. C'est quelque chose qui revient. Mm-hmm. D'ailleurs, ce qui est assez étonnant, les gens qui viennent me voir à la Tour du Guet, les gens qui viennent me voir à Tour du Guet, habituellement, ils ont quand même la notion de ce qu'est le télégraphe. J'ai très peu de gens qui viennent, ils ont la notion de ce que c'est, ils ne savent pas forcément comment ça fonctionne, ils ne connaissent pas forcément l'histoire, mais quand je leur demande est-ce que vous avez déjà entendu parler du télégraphe, on vous répond oui. Donc ça veut dire quand même que ça a encore un impact, encore aujourd'hui. Ce qui est important, c'est pour moi personnellement, c'est que ce qui était le passé, il faut pouvoir le restituer aux générations futures. Parce que en réalité, surtout des inventions technologiques de ce système-là. Là aujourd'hui, on a le smartphone dans la poche et vous communiquez avec WhatsApp à l'autre bout du monde immédiatement. Mais à l'époque, il faut savoir que un message de 200 mots entre Paris et Lille en 2 heures, c'était pire que WhatsApp.
D'accord, c'était encore, voilà. C'est encore mieux.
Ouais, exactement. Voilà.
Ça me fait sourire parce que effectivement, c'est l'ancêtre des technologies modernes que nous utilisons actuellement, et notamment, je pense à Twitter, donc qui aujourd'hui s'appelle X, qui autorise une communication certes instantanée dans la seconde, mais limitée à 180 non plus mots mais caractères. Donc voilà, je fais le lien avec un sourire, et je voudrais rendre hommage justement au monde de la culture, notamment le cinéma et la littérature, qui ont permis de faire que quasiment tout le monde aujourd'hui sache de quoi on parle, plus ou moins, quand on parle du télégraphe, justement. Voilà. Et puis, il y a autre chose aussi qui m'a interpellée, puisque vous avez parlé de votre problème de vision. Est-ce que, évidemment que ça n'a rien à voir en termes de, si on rentre dans les détails, mais ce système de codage, est-ce que il n'y aurait pas un parallèle à faire avec le braille?
Et là, si vous voulez, aujourd'hui, c'est une question qui m'a jamais été posée, c'est la première fois, voilà. Disons que le problème du télégraphe Chappe, c'est que c'était réellement un système uniquement visuel. Disons que les vocabulaires de la télégraphie Chappe, qui avait été inventé par son cousin qui s'appelait Delaunay, ces vocabulaires du numéro de page, numéro de ligne ou du numéro de la lettre qui se trouvait sur la page 26. Vous voyez, c'est quelque chose, c'est un codage qui a été utilisé en 1914, 1918, 1940, 39, 45. C'est quelque chose qui a donné des suites. Question avec le braille, Je ne pense pas, le braille, c'est quand même quelque chose de très très particulier.
Oui, en fait, si vous voulez, je pensais plus juste au fait que les deux sont des formes de codage, le braille.
Le braille, c'est pas vraiment un codage. Le braille, c'est le tactile de votre main qui permet de lire un mot. C'est là, quand je dis un codage, par exemple, quand on donnait un numéro de page, un numéro de ligne, on disait 1, 15. On allait à la page 1, à la ligne 15, et il y avait marqué « Bonjour, monsieur ». D'accord. Là, avec le braille, vous avez le A, B, C, D. Et quand vous lisez, pour les gens qui ont l'habitude, vous lisez le mot. C'est-à-dire qu'en passant la main uniquement la main sur les petites petits picots qu'il y a, vous avez, si vous avez, ABC, un à côté de l'autre, vous avez ABC. C'est pas un seul... un seul point qui vous permet de dire que c'est un mot. Il faut vraiment lire lettre par lettre.
Oui, c'est un codage de l'alphabet, quoi.
Voilà,
oui.
C'est l'alphabet qui est codifié par rapport à un système, d'ailleurs, qui a été bien calculé, puisque, en réalité, c'est 8 points. C'est 8 points qui sont, comme par exemple, sur le numéro 6 du D, sauf que là, c'est 8. Et chaque point, suivant que vous appuyez, vous lui faites faire un picot, à la lecture, ça ressort. Alors, il faut savoir que le braille, on le crie à l'envers. Il faut quelqu'un qui fait du braille, j'en ai fait un peu dans ma vie, quand même, et le braille s'écrit à l'envers. On va de droite à gauche, on n'écrit pas... il faut toujours écrire de droite à gauche.
D'accord.
Puisque quand la personne vous pique, vous faites des points, vous devez le lire, il faut que ça puisse être relu, justement, de gauche à droite. Voilà. Mais c'est vrai qu'aussi le braille a été une des inventions importantes pour les personnes non-voyantes. Alors moi, si vous voulez, c'est mon cas, je ne parle pas de mon cas, mais moi j'ai vu, moi j'ai été quelqu'un qui a vu. J'ai un problème depuis 1967 qui a fait que petit à petit j'ai perdu ma vue. Et là, ça fait, disons, 4-5 ans, 5 ans, 6, ouais, 4-5, 6 ans, que je ne vois plus. Alors, mes lunettes, c'est un filtre. Alors, les gens, ils croient que j'ai des lunettes, mais c'est un filtre. C'est parce que j'ai une luminosité, voilà. Mais là, je peux faire ça tout ce que je veux, là. Voilà. Donc, bon, là, je ne vais pas plaisanter parce qu'on est à la radio. Sinon, j'ai l'habitude de plaisanter.
Oh, mais vous pouvez. Allez-y.
Non, mais allez-y. L'avantage que j'ai, c'est que toutes les femmes sont jolies. C'est un avantage.
Non, mais voilà. Merci. Pauline, parlez-nous un petit peu de votre spectacle que vous allez présenter le 11 octobre. C'est un spectacle que vous avez déjà joué dans le Val d'Oise et que vous allez jouer à Paris le 11 octobre, les Coquicolis. Est-ce que vous pourriez nous en parler un peu ?
Avec plaisir. Donc c'est un spectacle olfactif, puisque j'ai deux piliers dans mon existence qui sont les mots et les senteurs. Et j'ai créé ce spectacle il y a environ 2 ans. Et je l'ai joué donc le 11 octobre à Paris, ça sera la 24e. Donc c'est un seul en scène qui est destiné à tout public à partir de 8 ans. Parce qu'il dure quand même 1h15. Et quand je dis que c'est un spectacle olfactif, en fait, c'est que les parfums rentrent, font partie intégrante de l'histoire. Et donc, chaque spectateur qui rentre dans la salle se retrouve avec 6 touches olfactives en main. Donc, les touches olfactives, c'est ces petites languettes de papier qu'on appelle vulgairement les mouillettes qu'on peut trouver chez Sephora par exemple.
Voilà, quand on va acheter du parfum.
et donc les touches qui sont distribuées aux spectateurs ont des codes couleurs, mais systématiquement avant le spectacle, on explique aux gens dans quel ordre il faut qu'ils les tiennent dans la main. Et au fur et à mesure que le spectacle se déroule et que les odeurs rentrent dans le spectacle, eh bien, les spectateurs sont invités à sentir et vraiment à connecter au parfum, à la plante qui leur est proposée. Donc c'est un moment introspectif, presque méditatif, avec de la couleur spécifique en fonction de l'odeur et de l'énergie qu'elle représente, avec de la poésie, des poèmes que j'ai écrits en sentant et en ressentant et en passant des heures et des nuits à sentir ces essences, et accompagné également de musique. Donc on est dans quelque chose de multisensoriel. Et l'histoire est une épopée initiatique où mon héroïne part dans le monde entier à la recherche de 5 essences qui vont l'aider à créer un parfum. Son objectif étant d'aller chercher son diamant intérieur.
À la sortie du spectacle, le public a... Est-ce que le public a souvent envie d'aller créer son propre parfum? Ça vous est déjà revenu à l'oreille, ça?
Oui, bien sûr, ça arrive. Et puis, ça arrive dans la réalité, puisque je propose également des ce que j'appelle des séminaires « Crée ton parfum d'âme », 2 à 3 fois par an, sur une journée complète, où les gens viennent, sentent 9 essences différentes tout au long de la journée, en profondeur. Et à la fin, chacun va choisir au minimum 3 essences, parce que en fait... Pour construire un parfum, pour qu'il soit équilibré, il faut ce qu'on appelle notes de tête, des notes de cœur et des notes de fond. Et ça va être défini en fonction du poids des molécules. Donc les notes de tête, ça va être les notes les plus légères, qu'on sent tout de suite au sortir du flacon. Le cœur, ça va être vraiment la signature du parfum. Et le fond, ça va être le sillage qu'on va retrouver sur plusieurs jours après. Et donc les gens, à la fin de la journée, vont choisir au minimum 3 notes. Une tête, un cœur et un fond. S'ils ont envie d'en choisir plus, ils peuvent en choisir plus. Et chacun va créer son parfum et repartir avec.
Donc, vous avez plusieurs casquettes. Vous créez des spectacles, des parfums.
Oui.
Et vous intervenez auprès des particuliers, des enfants et des personnes âgées également.
C'est ça. J'interviens aussi en structure. Donc, à la fois pour les petits, pour les éveiller et les éduquer au sens olfactif, et également parce que l'olfaction est étroitement liée aux émotions. Et donc, en fait, je suis olfactothérapeute, mais je suis également sophrologue. Et donc, l'outil olfactif est un outil que j'utilise pour accompagner les petits, déjà dans l'éducation sensorielle et olfactive, mais aussi dans l'accueil des émotions. Donc je propose des animations en crèche et en école maternelle, Et puis, je propose également des animations pour les plus grands en école primaire, des jeux olfactifs. Mais je travaille également, et ça c'est important aussi, je trouve ça une vraie raison d'être, avec les personnes âgées, dans les résidences seniors, dans les CCAS et dans les EHPAD, parce que le sens olfactif est étroitement lié à la mémoire. Et en faisant travailler les personnes âgées sur le sens olfactif, eh bien, ça permet de leur faire travailler leur mémoire et donc de prolonger leur autonomie de manière douce et non invasive.
Donc vous arrivez avec des essences
Ouais, j'arrive avec des essences. Alors je propose des jeux olfactifs, ça va du loto olfactif au memory. Je propose également des séances de sophro-olfaction, de méditation olfactive en fait, où on s'entend une essence, on va voyager dans l'intériorité, je vais guider les gens par la voix et sur la respiration aussi, sur les sensations du corps. Et puis je propose aussi le spectacle. Le spectacle dans ces structures est bien accueilli également.
Ah oui, vous avez un autre spectacle pour les enfants, je crois.
Alors, c'est pas vraiment un spectacle, oui. C'est une animation. Oui, c'est une série de sophro-contes olfactifs qui s'appelle Sidonie et le parfum de la joie. Et en fait, Sidonie est une cigogne qui vit au-dessus des nuages, là où il fait toujours beau, comme dit la chanson. Mais elle s'ennuie un petit peu toute seule là-haut, donc régulièrement, elle traverse les nuages et elle descend voir rendre visite à ses amis. Et donc, ses amis sont tous des animaux qui sont dans leur environnement. Et le parfum de la joie de Sidonie est un parfum que j'ai créé à base d'agrumes et de fleurs d'oranger, que, en général, les enfants aiment beaucoup. Mais dans l'histoire, les ingrédients du parfum sont des ingrédients un peu plus poétiques. Hein, le parfum, c'est le parfum de la joie du monde. Il contient le soleil, l'arc-en-ciel, la pluie, les nuages, la lune, les étoiles. Et donc, ce sont des mini-histoires de 10-15 minutes. Et dans chaque histoire, les enfants sentent le parfum. Et les enfants font 3 exercices de sophrologie qui va leur permettre d'apprendre à se calmer, à se centrer, à apaiser la tristesse, à évacuer la colère. Tout dépend des personnages et de l'histoire.
C'est des petits groupes de 4-5 enfants?
Oui, c'est ça. Mmh. Oui, c'est ça.
Vous connaissiez un petit peu M. Buffinelli?
Honnêtement, non.
Non.
Non, mais non. Ça pourrait m'intéresser éventuellement. Qu'on ait un contact pour Saint-Martin-du-Tertre, pour les écoles maternelles.
Ah, oui. Avec joie.
Ou éventuellement, là, on va mettre en place, on va bientôt ouvrir une ludothèque à Saint-Martin.
Oh.
Donc, c'est le genre de choses qu'on recherche pour faire avancer les choses. Mm-hmm. Voilà. On a, nous, c'est comme tout, vous devez connaître ça. On rentre pas dans la pédagogie des enseignants en ouvrant la porte comme ça. C'est très compliqué. Si c'est pas dans le programme, c'est pas dans le programme.
Oui, dans les écoles, c'est pas ce qu'il y a de plus facile.
Voilà. Moi, j'en fais l'expérience puisque régulièrement, j'adresse des correspondances à des écoles pour savoir s'ils peuvent être intéressés par. Soit une petite conférence sur la télégraphe échappe, soit pour venir à la Tour du Guet, on me répond, c'est pas dans le programme.
C'est compliqué de les faire venir à la Tour du Guet, les enfants?
Les classes? Dans les écoles, oui. Moi, en moyenne, j'en ai une ou deux par an. Mmh. Voilà. Alors, j'ai toujours. Il n'y a qu'une seule fois où ça m'a été très compliqué. Ça a été lorsque j'ai eu une école du Vexin. Alors, une école unique, c'est-à-dire ils étaient du CP au CM2 et ils n'avaient que 42 enfants. Là, c'était un peu plus difficile parce que c'est compliqué. Nous, à la Tour du Guet, il faut savoir qu'un groupe de plus de 15, 20 maximum, c'est déjà beaucoup. Mm-hmm. Parce que nous, on est dans une tour. Il faut savoir que la tour, elle ne fait que 4 mètres de diamètre. Hein.
Oui.
Et après, il y a l'escalier, etc., etc. Bon, d'ailleurs, après, l'escalier, c'est leur jeu quand ils redescendent. Là. Mais j'ai tenté le lycée de Luzarches, ils ne sont jamais venus. Hein. Mm-hmm. Voilà, j'ai souvent, une école dans le 19e arrondissement qui elle, est aussi une base sur la télégraphie, puisque c'est de là que c'est parti, hein, le métro télégraphe vient de là, qui me contacte au moins une fois tous les 2 ans. Donc ils m'emmènent des... Et alors ils viennent de Paris, donc ils m'emmènent des enfants qui ont 8 ans. Voilà, et 8-9 ans, voilà. Et après, moi, j'ai les écoles de Saint-Martin, bon, pareil, j'ai au moins une classe tous les ans. Voilà, j'ai des écoles de Viarmes.
Voilà. Les enfants de Persan sont déjà venus ?
Non.
Non, pas encore ?
Non.
Ok.
Non.
Ils viendront peut-être bientôt.
Bah, écoutez, il faut espérer, hein, n'importe comment. Nous, alors, là, je ne l'ai pas dit, bon, c'est vrai qu'on a des heures d'ouverture. Bon, c'est vrai que moi, j'ai aussi ma fonction d'adjoint, mais je priorise la tour du guet. Hein. C'est-à-dire que si on me prévient 48 heures avant, moi, sur demande, on ouvre sur demande, parce que la tour du guet, nous, on ouvre que le dimanche matin en tant que bureau d'information touristique. Voilà. Et, mais disons que la majorité des personnes, bon, c'est vrai qu'elles viennent le dimanche matin quand elles se promènent, mais les gens qui viennent au musée, ils viennent en semaine, ils viennent, voilà, et ils ont un contact, ils me téléphonent, et moi j'accepte de recevoir les personnes à partir du moment qu'on me prévient. Bon, si j'ai rien dans la journée, je prends tout de suite, hein, mais si j'ai quelque chose ou quoi que ce soit, j'accepte de prendre toutes les personnes à partir du moment où j'étais prévenu au moins 48 heures avant.
Voilà, il ne faut pas vous appeler à minuit. Hein. Faut pas,
non, il ne faut pas faire comme l'âme. Non. Non, mais c'est certain. Disons, là, juste un petit problème d'appréciation. La Tour du Guet, je reçois en gros un peu plus d'un millier de personnes par an. Alors, ça ne paraît pas beaucoup, mais 60%, c'est pour le musée. Voilà. Après, vous avez les gens qui passent le dimanche matin, les randonneurs qui veulent aller voir le paysage. Comme là, par exemple, dimanche, j'ai eu 10 personnes qui sont venues. J'en ai même eu... leur seul intérêt était d'aller voir le belvédère. Quoi.
Et c'est combien, la visite ?
Rien.
C'est gratuit,
en plus. Totalement gratuit.
Ben, eh bien, on viendra.
Voilà.
Je viendrai.
C'est très bien.
Vous avez, après ce recueil, est-ce que vous avez l'intention d'écrire un autre livre, un autre bouquin ?
Là, je suis sur un autre livre, mais pas sur le même sujet.
Ah, c'est lequel ?
Un sujet un peu plus délicat. C'est-à-dire que j'ai un ami qui habite à Orléans, qui est un Saint-Martinois, qui un jour est venu me voir en me disant « Ouais, quand vous faites vos cérémonies le 11 novembre, vous citez toujours les poilus de Saint-Martin qui sont morts, mais vous ne citez pas tous les Saint-Martinois qui sont partis à la guerre. » Ben, j'ai dit « Écoute, ben, cherche. » Et donc, dans ses recherches, il a découvert qu'en réalité, nous, sur le monument aux morts de Saint-Martin, et une personne qui a vécu de 1909, malheureusement, que jusqu'en 1915, puisqu'il est décédé en 1915, s'appelait Charles Simon. Alors, quand on dit Charles Simon comme ça, moi, je veux dire, franchement, comme à une époque, c'est moi qui disais « mort pour la France » quand on était là-bas, donc voilà, je disais « mort pour la France », sans savoir qui était cette personne. Et dans ses recherches, il a découvert que ce monsieur était le secrétaire général de la Fédération gymnastique des patronages de France. Dans les années 1903, 1904, 1905. À sa mort, le 15 juin 1915, le CFI a décidé de... Alors c'était quelqu'un qui gérait, c'était un dirigeant sportif pour le football, là où j'ai oublié, parce que c'est ça le principal. Hein. Et en 1917, lorsqu'on a créé la Coupe de France, c'est-à-dire la Coupe aux grandes oreilles, là, voilà, et on a dédié cette coupe à Charles Simon. Donc Charles Simon, c'est le fondateur à l'origine, puisque le CFI est devenu ensuite la Fédération Française de Football.
Mais vous êtes une encyclopédie.
Et donc là, si vous voulez, j'ai eu la chance dans les recherches de retomber sur des descendants directs de Charles Simon, qui sont venus, et le 15 juin de cette année, on a inauguré une plaque et une route, parce que voilà. Et là, bien qu'il y ait quelques contestations, là on va faire une stèle, qui va mémoriser la mémoire de Charles Simon à Saint-Martin-du-Tertre. Et donc là, j'attendais un certain nombre de documents. Parce que le livre, il aurait déjà dû être prêt, parce que je comptais l'avoir pour le salon du livre de Beaumont. Mais là, c'est cuit, parce que l'arrière-petite-fille de Charles Simon a des documents et surtout des lettres. De son grand-père ou arrière-grand-père.
Qui paraîtra dans le livre.
Oui, et des lettres que quand il était au front. Et qui normalement, voilà. Mais elle devait aller, alors c'est en Bourgogne, dans une maison qu'ils ont en Bourgogne. Elle n'a pas pu y aller, donc je préfère attendre de rajouter ces lettres dans ce livre. Qui aura un historique donc de Charles Simon. Bon, Charles Simon, il suffit d'aller sur Internet. Voilà, maintenant, aujourd'hui, le CFI, c'est la Fédération Sportive et Culturelle de France. Donc, la Fédération Française Culturelle de France, si vous voulez, à Saint-Martin-du-Tertre, vous comprenez bien que Pierre-Carlo Businelli, ayant été l'adjoint de Louis des Enclos, ça paraît un peu bizarre, puisque Charles Simon, c'était quand même le secrétaire général de l'Union internationale des œuvres catholiques de France. International, donc au Vatican, etc. Mais disons que moi, je ne considère pas les personnages, les idées, quoi que ce soit. Il faut considérer l'œuvre des personnes. Et donc, je me suis attaqué un peu là-dessus. Donc, je rédige en même temps l'histoire du patronage de Saint-Martin-du-Tertre, puisque c'est quand même l'histoire du village. Parce que l'association des enfants de Saint-Martin-du-Tertre, qui a été créée en 1909 officiellement, mais en 1898 officieusement. Voilà, ça a toujours été une institution à Saint-Martin-du-Tertre, et c'est la plus vieille association que l'on a sur notre collectivité.
Le livre paraîtra sans doute l'année prochaine, 2026.
Ça sera Charles Simon à Saint-Martin-du-Tertre, puisque moi, avec un autre collègue, on se partage un peu.
L'écriture,
voilà, ou des choses simples. Ce qui est assez simple, je le fais. Ce qui est plus complexe, lui, il le fait.
Voilà. Très bien. Et Pauline, vous avez déjà écrit un bouquin.
Oui.
Ça n'a rien à voir.
Tout à fait. Je vais vous parler du livre, mais avant, j'aimerais rebondir, parce que l'engagement associatif de M. Charles Simon me fait penser à une association à laquelle je suis adhérente et qui m'est chère, qui s'appelle Né en Herbe, qui est une association qui vise à promouvoir justement l'éducation de l'olfaction auprès des petits. Qui est présidé par Didier Trottier avec deux personnes particulièrement actives qui sont Roland Salès, un scientifique renommé dans le monde olfactif, et Clémentine Humeau qui est créatrice de parfums. Et donc cette association réunit tout l'écosystème des bonnes volontés qui œuvrent dans l'olfactif. Et justement, il y a un livre qui doit sortir prochainement, qui sera produit par la revue NEZ, parlera des différentes initiatives et qui proposera différentes idées pour animer des ateliers olfactifs en structure. Voilà. Et nous réunissons, nous faisons une réunion en physique, en présentiel, pour se rencontrer un peu tous les uns et les autres samedi prochain. J'ai hâte de vivre ce moment-là. Voilà pour rebondir sur ce que nous disait Monsieur Vizileni et sur ce que ça m'évoquait en termes d'engagement associatif. Et puis en ce qui concerne le livre que j'ai écrit, c'est un roman. Parfumé, of course, qui s'appelle « La vie est un parfum, respirez-la ». Et donc ce roman est parfumé parce qu'en fait, c'est un roman qui parle de parfums, bien entendu, et les quatre parfums des quatre personnages principaux sont décrits, puisqu'ils sont créés dans l'histoire, on voit le processus de création, et ils sont reniflables, si j'ose dire, ce mot est horrible. pendant la lecture, sur quatre marque-pages parfumés qui sont emballés dans des petites pochettes en cristal de manière à conserver le parfum le plus longtemps possible. Et donc c'est un roman initiatique qui se divise en trois histoires temporelles qui, à certains moments de l'histoire, se rejoignent.
Et le livre. On le lit pas comme tous les autres livres, c'est bien ça. Hein,
oui, c'est vrai, c'est ça. En fait, lorsque j'ai présenté le manuscrit à mon éditeur, il m'a dit « j'aime beaucoup ta plume et je vais t'éditer, mais il faut que tu retravailles ton livre ». J'ai dit « d'accord ». et qu'est-ce que je dois retravailler. Il m'a dit, bah, en fait, tu as trois temporalités et c'est un petit peu trop compliqué, on n'arrive pas à te suivre. J'ai dit d'accord. Puis là, il y a un grand silence qui a suivi. Henri Kaufmann, c'était mon éditeur, était quelqu'un avec qui on pouvait rester dans le silence sans lourdeur, sans aucune gêne. C'était assez fabuleux. Et puis au bout d'un moment, il sort de son silence. Mais il avait un peu de pudeur quand même. Donc au bout d'un moment, c'est lui qui rompait le silence, soit avec quelque chose de génial, soit avec quelque chose d'hilarant. Et là, en l'occurrence, il me dit... pourquoi tu fais pas le présent sur les pages de gauche et le futur sur les pages de droite ? J'ai dit chiche. Donc j'ai tout déconstruit et j'ai tout reconstruit de manière à avoir cette construction-là et à avoir des synchronicités entre le présent et les deux temps du futur, parce qu'au futur, il y avait deux temps, un futur proche et un futur lointain, et donc des synchronicités de dates, de lieux, de parfums, d'événements. Voilà. Donc c'est vrai qu'il se lit d'une manière un peu particulière.
On peut encore le retrouver ?
Oui, bien sûr. Alors, soit on peut le commander dans les librairies ou en ligne ou physiquement. Mais si on veut faire la lecture parfumée avec les marque-pages, alors il faut passer par mon site. C'est le site, en l'occurrence, oui, c'est paulinedumaille.com.
D'accord, très bien. Est-ce qu'il y a un bouquin en préparation ou pas, un autre ?
Alors oui, il y a un projet, mais pour l'instant, c'est pas assez abouti pour que j'en parle. Je préfère... plus on parle des projets, plus ça se dilue. Donc tant qu'il n'est pas abouti, je préfère garder ça pour moi pour l'instant.
Je vous remercie de nous mettre un peu en avant. Voilà, et donc moi je donne rendez-vous à tous ceux qui veulent avoir un peu plus d'explications sur la télégraphie à Saint-Martin-du-Tertre, à la Tour du Guet. Voilà, donc on a un site qui s'appelle www.otsi-6saintmartin.com, 95.com, voilà, où on peut retracer toute l'histoire de Saint-Martin-du-Tertre, avec des personnages, parce qu'à Saint-Martin-du-Tertre, on a quand même une commune un peu particulière. Moi, je ne suis absolument pas originaire de Saint-Martin-du-Tertre, mais Saint-Martin-du-Tertre a vraiment quelque chose de particulier, en dehors de son château, qui est quand même la copie de la réplique de Maison Lafitte. Mais il y a eu plein de personnages qui sont venus à Saint-Martin-du-Tertre, juste pour en citer des importants, Georges Sand, Benjamin Constant, Musset, voilà. Et dans les grands personnages, Thiers qui venait régulièrement au château de Saint-Martin. Et donc on a tout un historique, ce village, qui est ce qu'on appelle un village de crête. Voilà, et pour lequel, en fin de compte, quand on va chercher son histoire, ça reste un village qui, depuis ses origines, a voulu progresser. Et ce qui a donné des maires et des personnes qui n'avaient que comme objectif leur commune. Voilà, et je vous remercie encore de nous donner la parole.
Je vous en prie, c'est normal, Pauline.
Ben oui, moi je voudrais remercier Alternative FM et particulièrement vous, Marie-Gabrielle, pour tout ce que vous faites. J'aime beaucoup les contenus qui sont produits. Cette radio indépendante et associative est précieuse. Et je voudrais vous remercier et vous dire bravo. Et puis en ce qui concerne les coquilles-colis, donc comme je vous le disais, ce sera la prochaine, la 24e sera le samedi 11 octobre à Paris à 20h, juste à côté d'Opéra, dans un lieu magnifique qui s'appelle Open Mind, qui est un lieu qui a été racheté par les propriétaires actuels pendant le Covid, un immeuble juste à côté du Starbucks Coffee avec deux plateaux de 250 mètres carrés qui accueillent la journée des séminaires d'entreprise et qui en week-end et en soirée proposent des choses plus culturelles, plus sensorielles, plus intérieures. Et la billetterie en ligne est sur aromathérapie-du-6-conseil au singulier.
On est à une semaine du spectacle.
.fr. Pas loin. Mm-hmm. Pas loin. Oui, donc aromathérapie-conseil.fr. Et alors, je conseille vivement aux gens qui sont intéressés de réserver parce que la jauge est limitée et qu'il y a déjà 38 places de réservées. Normalement, la jauge est limitée à 50. Je vais voir si on peut augmenter un petit peu, mais j'invite à réserver.
Donc, il faut y aller tout de suite et maintenant. En tout cas, merci d'être venu au studio d'Alternative FM. Je vous remercie d'avoir répondu à cette invitation et ça a été un très bel échange passionnant. Merci à tous d'avoir suivi cette émission Liberté, Égalité, Fraternité. Restez à l'écoute de votre radio préférée.